Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL, même pendant l'intersaison. Et on a un grand groupe ce soir. On accueille Val de Triple Scout Valentin. Oui. Comment ça va, Val?
Salut, ça va les gars, tranquille?
Très bien, très bien, très bien. France, en forme? T'es chaud?
Ah ouais, je suis chaud comme d'habitude. Salut l'équipe, salut tout le monde.
Salut, salut, on a Lucho.
Salut, salut tout le monde.
Alex.
Messieurs, bonsoir.
Et last but not least, Nico, comment ça va?
Hey, bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci.
Alors ce soir, on va parler de pré-saison et de training camps et d'OTAs et de ce qui s'est passé depuis la draft jusqu'à maintenant. Et ce qu'on attend de la pré-saison jusqu'au début de la saison. Il y a un peu de background noise, je ne sais pas chez qui.
Pardon, c'est peut-être chez moi. Je
vais t'arrêter. Ok, pas de souci.
Arrête de regarder la roue de la fortune, Nico.
Et voilà. Et voilà.
Donc OTAs, pré-saison, match de pré-saison, training camps, etc. Savoir quelles sont les choses à suivre et quels sont les impacts pour la fantasy. Hop, je remets Val, je ne sais pas pourquoi il était parti. La première chose que je vais vous demander, c'est Enfin, quelle importance vous accordez à ce qui s'est passé en OTA et ce qui sort des journalistes qui sont présents, etc., des interviews, des bruits de couloir, etc. Est-ce que, on va pas aller dans le détail, mais juste sur une échelle de 1 à 10, par exemple, si vous entendez parler d'un joueur lambda et qui dit bah, « celui-là, ouais, il s'est vachement démarqué, machin », est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous vous en foutez sur une échelle de 1 à 10? Lucho.
Moi, je suis à 10 sur 10, pur. Franchement, je suis hypé de ouf sur Jordan Love, le futur Aaron Rodgers. Non, mais ça me fait rire. Franchement, il y a beaucoup de news qui me font rire quand même. Il y a à boire et à manger, quoi.
Chaque rumeur t'envoie une offre de trade.
Ah, c'est ça, direct. Ou alors je mets sur le draft block. Allez, trade block. Hop, c'est parti.
Alex, France.
Moi, ça dépend sur quelle équipe ou quelle zone, mais ouais, je suis entre 2,5 et 3. Ça, quelquefois, les informations ressemblent plus à des blagues carambars, donc je fais pas attention.
Pour Dynasty, je pense que je serais plutôt 5 et 2 en redraft. Parce qu'en Dynasty, c'est autre chose quand même. Il y a les rookies, ouais. la concurrence avec les anciens. On voit quand même Dalvin Cook qui se fait cutter. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça qui arrivent quand même. Ah. Et en dynastie, c'est un petit peu autre chose.
Ouais. Ouais. On nous vend du rêve quand même. Il y a quand même beaucoup de news.
Et Val, toi qui suis ça, peut-être d'un œil un petit peu différent, je ne sais pas si tu es à fond sur la dynastie ou pas, mais en tout cas, tu as envie de voir tes joueurs que tu as suivis pendant leurs années collège et voir leurs premiers pas.
Ouais, c'est plus ça. Alors moi, la dynastie, je vais en commencer une normalement cette année pour la première fois.
Et là.
Donc voilà, ça va de ma première. Mais on va dire que j'apporte une importance à, je sais pas, à 5 sur 10, parce que comme je sais plus qui tout à l'heure, t'as à boire et à manger, t'as ouais tous les gars qui vont dire de leur QB que c'est un futur Hall of Famer, futur QB MVP, alors qu'on sait très bien que non. Et tu as des petites infos qui passent, qui sont plus ou moins importantes. Ou par exemple, je ne sais pas, je pense que Franz, toi, tu as regardé un petit peu. Mais les Panthers, ils sont en train de sortir des épisodes là, sur leur chaîne YouTube. Et tu as des infos qui passent par rapport notamment à la draft, etc. Où tu comprends un petit peu ce qu'ils vont essayer de faire par rapport aux joueurs. Et ça, je trouve ça assez intéressant.
Yes. Je sais pas, j'ai entendu. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter un truc?
Oui, c'est intéressant, mais attention, évidemment, il y a beaucoup de promos. Hein. Il faut faire vendre quand même. Hein. Mais oui, c'est intéressant.
Ouais, alors c'est ça, ouais, tu as raison. C'est ça qu'il faut garder en tête, ça c'est important. C'est vrai que les journalistes qui bossent pour les équipes, ils font énormément la promotion pour vendre les tickets. Et pour générer effectivement de l'intérêt, etc. C'est pas toujours. Il y a les beat writers qui sont vraiment là pour générer de la hype. et qui disent rarement des trucs très négatifs. Et il y a d'autres journalistes qui sont un peu plus neutres, mais qui ont moins d'accès pendant les pré-saisons. Donc du coup, faut faire un petit peu la part des choses entre ces deux-là. Et moi, je vous rejoins, ouais, je suis un peu pareil. Ouais. Pour la dynastie, forcément, je m'y intéresse parce que chaque petit truc peut avoir son importance. Je pense qu'il faut... C'est une question de, tu sais, la fréquence à laquelle ça revient. S'il y a une info qui revient 5 fois, 6 fois, 7 fois par différents joueurs qui à chaque fois en parlent sans être sollicité, etc. Je pense notamment, on en parlera tout à l'heure et vous me direz ce que vous en pensez parce qu'on a deux fans des Packers, mais Romeo Doubs aux Packers, ça fait 4-5 fois que j'entends dire ouais, c'est vraiment, il a un bon rapport avec Love, cible préférée, etc. Il était déjà bon l'année dernière. Ça, c'est le genre d'info qui m'intéresse parce qu'on parle tous de Watson, on oublie un petit peu Doubs qui a été blessé. Et en termes de valeur fantasy, quand tu regardes où les mecs sont draftés, ça peut te permettre d'identifier des joueurs qui sont un petit peu oubliés en tout début de process et qui d'ici fin août, après quelques matchs de pré-saison, etc., ben, ils ne seront plus du tout oubliés. Donc ça, c'est plus pour ça que je le suis, moi.
Disons que c'est quand même plus intéressant.
Excuse-moi, France, j'aurais tendance à plus suivre les mini-camps que les outillés ou la pré-saison. Parce que sur la pré-saison, à chaque fois, ils ont un carton, des fois deux, pour montrer ce qu'ils peuvent et pour bosser. Sur les outillés, bah, de toute façon, les mecs qui sont draftés un peu haut, t'entendras jamais rien de négatif sur eux au bout de deux semaines. Et après, c'est sur vraiment les relations sur les mini-camps et tout ça. C'est là qu'on voit un peu de trucs un peu plus intéressants, mais du coup, beaucoup plus axé, je suis d'accord avec tout le monde, sur la dynastie, parce que c'est tôt et qu'on n'est pas encore dans les timings de Ligue Redraft.
Ouais, tout à fait. Alors, justement, parlons un petit peu des OTAs et des trois jours de minicamp. Est-ce qu'il y a eu quelques infos qui ont retenu votre attention dont vous voulez débattre ou parler par rapport toujours aux joueurs offensifs, quelque chose auquel vous attendez pas, quelque chose que vous avez envie de suivre plus tard, une bataille de position à laquelle vous y attendez pas, quelque chose comme ça.
La bataille de QB chez les Titans.
Ouais, alors du coup c'est quoi la hiérarchie actuellement? Tannehill numéro 1, mais on ne sait pas trop qui est numéro 2.
On ne sait pas trop quel est le plan du futur, etc. Donc là, pour une dynastie, en ce moment, j'ai l'impression qu'on lance la pièce en l'air pour savoir entre Levis et Willis. Pourquoi ils ont fait ce choix-là, etc. En tout cas, c'est un truc qui est... En fait, d'habitude, il y a une bataille entre deux. Là, il y a presque une bataille entre trois, et c'est pour ça que ça me fait rire, et c'est ça qui rend le truc un peu plus intéressant et moins classique que d'habitude.
Ouais, d'autant plus que cette bataille pour numéro 2 est potentiellement intéressante parce que rapidement, ça peut être la bataille pour numéro 1.
Exactement.
Alors, Val, toi qui connais bien ces joueurs-là, parce que nous, on n'a pas trop vu Malik Willis du coup l'année dernière. On a encore moins vu Will Levis. Je connais un petit peu ton opinion, mais qu'est-ce que tu penses du potentiel de ces deux joueurs-là et à moyen terme, disons, même si par hasard Willis était le numéro 2 pour démarrer, est-ce que tu penses qu'il a une chance d'avoir un impact en NFL ou pas?
Difficilement quand même. Ça restait un joueur à développer. Après, j'ai l'impression qu'ils ont lâché l'affaire sur Malik Willis. Parce que sinon, tu piques pas Will Levis. Donc. Si c'est pour faire une concurrence entre deux QB comme ça, sélectionnés à une année de différence, je trouve ça très bizarre. Donc c'est possible. Ils peuvent faire ça pour essayer de revendre l'autre. Bon, bien sûr, ils vont le revendre un petit peu moins bien que ce qu'ils l'ont drafté, pardon. Mais je pense que Malik Willis, c'est foutu. Et Will Levis, ça reste un joueur à développer, mais qui avait déjà, je me souviens bien, 24 ans. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est pas une super situation pour eux, je pense qu'ils sont mis dans la mouise un peu tout seuls, et au point de vue de dynastie ou peu importe, c'est pas là que j'irai chercher forcément un quarterback potentiel pour faire des points ou autre.
Yes. Ouais, Malik Willis, le seul intérêt pour moi en fantasy, c'est sa capacité de course qui lui donne un petit plancher comme d'habitude. Mais j'ai aussi des sérieux doutes sur sa capacité à jouer suffisamment bien pour avec un corps de receveur assez qui est peut-être le plus faible actuellement de la ligue. Sa capacité à enchaîner les matchs et à être vraiment utile sur le long terme en fantasy. C'est le genre de joueur, je pense que si jamais il startait un match et qu'il, par hasard il arrive à faire 2-3 perfs pas trop mal en fantasy, il faudra essayer de l'offload le plus vite possible pour le peu de valeur que tu peux en tirer, à mon avis.
Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui surjoue en termes de communication. Là, en ce moment, il n'arrête pas d'envoyer des messages en disant qu'il n'a jamais eu une telle alchimie dans l'équipe et ainsi de suite. Ça pue.
Mais il a toujours eu 0, donc même s'il a 0-1, c'est mieux, quoi.
Ah, mais il est obligé de communiquer maintenant, c'est tellement tôt. Enfin, c'est incroyable de communiquer maintenant, comme quoi tout a changé. Bah,
c'est un peu ce qu'il avait fait déjà sur la draft, hein, sur le processus draft. Ouais. Il communiquait énormément, comme rarement on l'a vu.
Mais c'était pas que de sa faute. Pour le coup, il y a les médias qui sont partis.
Pour moi, il est mal encadré aussi. Et je pense qu'il a des personnes autour de lui, il n'a pas les bonnes personnes en termes de com. Son agent, pour moi, il a des responsabilités, je suis persuadé.
Ou alors les personnes ont conscience du niveau qu'il a, et donc du coup, forcément, ils jouent all-in tout de suite, et ils en profitent. Enfin, ça se comprend également.
Tu ne gagnes rien à faire quand même.
Surtout dans une draft qui était quand même assez faible au niveau des quarterbacks l'année dernière.
C'est clair.
Alors, quoi d'autre à part les Titans ?
Moi, j'ai la situation des running backs aux Bears. Et qui peut être intéressant, notamment avec Roshan Johnson, du coup, qui était le backup de Bijan Robinson à Texas. Et je pense qu'il a une grosse carte à jouer parce qu'il était très sous-coté. Et vu l'effectif, là, le niveau du roster du running back, si vous prenez, c'est Khalil Herbert, Travis Homer, Donta Foreman et Tristan Ebner. Donc, moi, je pense que potentiellement, sur une dynastie, ça peut vraiment le faire. Hein. Enfin. Ce que je pense.
Non, t'as raison. C'est une bonne cible, et d'autant plus que lui fait partie justement de ces joueurs dont on a dit beaucoup de bien pendant les OTA. Il s'est revenu plusieurs fois. Il pourrait être, je crois que c'est même le head coach qui a dit qu'il s'attend à ce qu'il soit efficace dès le début. Est-ce que c'est. Je m'y connais un petit peu moins parce que je ne l'ai pas vu jouer à Texas. Je crois aussi qu'il n'est pas mauvais, peut-être meilleur même que les autres en pass block, ce qui pourrait lui permettre de rester un peu sur le terrain.
On l'a pas beaucoup vu faire ça à Texas, mais si je me souviens bien, parce que maintenant ça commence un petit peu à dater, mais point de vue technique, c'était pas ouf, mais l'engagement était là. Donc si tu corriges la technique, voilà, c'est tout bénef.
Et en pass catcher ?
Pareil,
c'est ça le souci par rapport à Herbert et Foreman, en fait, parce que c'est eux qui partent devant lui pour l'instant. S'il doit en fumer un, c'est sur la capacité de sortir du backfield et de catcher, quoi.
Il l'aura pas. Bah, il l'a pas avec ce qu'on a comme information là, ce qu'on a vu.
Voilà, c'est ça. C'est...
Il l'a pas. Mais il a, je pense qu'il aura peut-être le potentiel, hein, mais il a pas eu autant la possibilité de le montrer. Et par rapport à Herbert, qui est bien implanté à ce niveau-là, ça va être plus compliqué. Mais par contre, Roshan Johnson, pour moi, il a une plus grosse caisse que Khalil Herbert. Hein. En termes de capacité d'enchaîner les downs physiquement, pour moi, il est très sous-coté, Roshan Johnson.
Non, parce que Herbert, c'était un peu en dents de scie, hein, quand même, ses performances. Hein. Il était capable de faire de très bonnes choses, et après, on ne le voyait plus pendant un certain temps.
Enfin, si après, il y avait des gens qui forment en plus, c'est bien que Herbert ne leur donne pas une satisfaction et une assurance tout risque, hein, ça c'est sûr.
Mais Foreman en goal line, tu peux. En fait, Foreman, c'est un goal line player aussi. Donc,
ah oui, clairement.
C'est pour ça aussi que c'est une complémentarité. Après, je ne connais pas assez bien Johnson pour savoir s'il peut être un three-down back ou non. En tout cas, une belle rotation quand même, hein, chez les Bears. Après, en dynastie, je suis d'accord que ça peut être intéressant. Faut être patient.
Ouais, quoi. Ouais, il faut être patient, mais ça peut être le genre de joueur qui se rend utile très rapidement, effectivement, dans une. Et Val, tu soulèves un point vachement important aussi pour la fantasy. Les backfields, les rooms de running back qui sont un peu ambigus comme ça, dans lesquels on ne sait pas trop qui peut jouer. Il y en a quelques-unes dans la ligue en ce moment. les Bears en font partie. En fait, tu prends pas un énorme risque parce que tu vas pas payer très cher pour ce running back. Je sais pas de mémoire où il est drafté actuellement en dynasty et je pense qu'en redraft il est potentiellement non drafté même. Mais du coup, ça coûte pas très cher de le prendre au dernier round de ta redraft, etc. ou dans le dernier tiers de ta dynastie. Et donc, si ça marche pas, c'est pas très grave. Mais si ça marche, c'est le genre de truc où il y a pas un mec. Il faut pas attendre une blessure, faut pas attendre un truc. Donc effectivement, ouais, ça peut être super intéressant de s'intéresser à ces backfields.
Non, mais il y a un truc qui fait que ça marche aussi, c'est que maintenant avec les running backs. Bah, dès qu'ils ont plus de 25 ans, il ne faut plus les prendre. Et donc, du coup, bah, tu prends les rookies, puis tu pries et tu te dis, bah, à un moment donné, le mec, il va se battre. Parce que de toute façon, en termes de renégo de contrat, dès qu'ils sont en troisième, quatrième année, il y a renégo de contrat. Là, on voit avec Josh Jacobs, ça va être un bordel, tous les propriétaires de Josh Jacobs. Franchement, je les plains. Moi, je serais pas serein. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les jeunes, tu prends les rookies, et puis après, tu as... t'en profites pendant 2-3 ans. Donc oui, autant le prendre. Et je pense même que dernier tiers, petit à petit, je pense que ça va être même le début du dernier tiers de ta draft.
C'est la char à canon, la RB.
Ouais, c'est ça. Et il y a un peu André Miller aussi au Saints, qui est un peu dans le même dans la même exactement. Situation, on va dire. Exactement. Dans le sens où ça, c'est quand même un gros physique qui peut perf aussi. Et la situation des RB au Saints, elle est un peu énigmatique aussi. Donc c'est un joueur aussi à surveiller en fantasy. Surtout en dynastique.
Ouais, situation incertaine avec potentielle suspension pour Alvin Kamara, qui est plutôt jeune. Jamal Williams qui est arrivé. Kendre Miller qui a été drafté. Val, parle-nous rapidement de Kendre Miller, de son profil. Est-ce que c'est autour de Kamara et Jamal Williams, comment tu le vois s'intégrer dans ce backfield? Est-ce qu'il peut prendre le rôle des deux et être le futur ou être plus un rôle complémentaire?
Moi, je pense qu'il peut être le futur. Après, son principal problème, c'est qu'il manquait un petit peu d'athlétisme. Par contre, c'est un mec qui a une très bonne vision du jeu. Donc, si tu arrives à développer un petit peu cet athlétisme, ce manque d'athlétisme, franchement, tu peux avoir un solide numéro 1. Ça va te prendre un petit peu de temps, je pense, genre 2 ans pour le développer. Mais à mon avis, il le voit vraiment comme un futur numéro 1 quand Kamara partira ou autre. Mais c'est au minimum un numéro 2 qui va jouer, je sais pas, 40% des snaps dans 2 ans, quoi.
Jamal Williams, c'est l'écran de fumée.
Hein. Je sais pas si c'était pour moi. Saisi,
Charbonnet, il pose la question sur Charbonnet. Oui.
Parce que c'est un peu le même sujet. T'as deux mecs qui sont potentiellement forts, Walker, Charbonnet, enfin qui sont potentiellement potentiellement leader de leur franchise, c'est pas pareil. Potentiellement leader en snap. Pareil, c'est une bataille là que je vois. Il y a pas mal de hype, je trouve, autour de Charbonnet. T'en penses quoi, toi, par rapport à ce que Walker a fait l'an dernier, ce qu'il peut faire?
Moi, Charbonnet, j'ai beaucoup de mal avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être bon ou qu'il ne va pas faire carrière. Je pense que juste qu'on le voit beaucoup trop beau. Okay. Je pense que c'est quelqu'un qui a un potentiel de puissance, mais qui ne sait pas du tout l'utiliser, qui a un gros manque d'athlétisme, qui, en niveau du pass-catch, n'est pas très bon. Je pense qu'au niveau pareil pass-block, c'est vrai, c'est pas du tout bon. Il a un gros manque de playmaking. Et en fait, à mes yeux, si je vous souviens bien de mes scouting, j'avais parlé du fait qu'il a beaucoup profité du fait qu'il y ait DTR avec lui et que ça lui a forcément ouvert des brèches. Quand tu as un quarterback double menace comme DTR à côté de toi, ça t'ouvre des brèches et du coup, bah, les défenses, elles sont pas forcément que sur toi. Maintenant, il y a un potentiel, mais il y a beaucoup à développer. Et sur ce, je sais pas, moi, c'est juste une impression que j'ai sur Charbonnet, de dire il va être bon, il va faire des stats et tout un petit peu, mais tu vas jamais avoir ton potentiel numéro 1 avec lui. Tu vas toujours dire, ouais, je peux avoir mieux.
Et d'ailleurs, Kenneth Walker, est-ce que c'est mieux?
Oui. Au point de vue dynasty, en plus, oui, largement.
Deuxième année, tu vois, c'est ça qui est. C'est dur à choisir, mais moi,
après, franchement, en plus, ouais, mais alors, on parle de Seattle, avec leur mentalité à prendre running back sur running back aussi. Après, il y a ça aussi.
Ils prennent des
Ah oui, je veux dire, tu regardes Homer, tu regardes Penny, enfin, on en a vu une tonne, c'est rebalancé après dans le reste des équipes. C'est, pour moi, c'est encore à part, c'est la mentalité, la philosophie de Seattle. Bon, Charbonnet, il est pris comme, comme Samuel J. Perrine, je crois, de mémoire, en ADP. C'est en bon numéro 2, ça reste assez logique en termes d'ADP. Kendrell Miller, il est un peu plus tard, je crois, il a juste une dizaine de places derrière. Mais bon, Seattle, ça peut, c'est un peu différent quand même.
Moi, franchement, Charbonnet, prenez-le si vous avez Kenneth Walker.
Non, mais ça, évidemment.
Si vous avez. Non, mais c'est vrai. Non, en gros, t'es en dynastie ou même t'es en keeper, par exemple. Et évidemment, t'as décidé de garder Kenneth Walker. Je pense que Zach Charbonnet, tu peux l'avoir aux alentours du 8e, 9e tour. 7e, 8e ouais. tour. Ouais, et au final, tu as une assurance.
Ouais. Il faut une pression à le prendre, par contre. Parce que il faut quand même, parce que comme il y a une telle hype, si tu veux, en termes de draft, c'est que du coup, tu peux avoir un Marc derrière qui fait le malin en disant ah bah tiens, hein, t'as pris Kenneth Walker, bah, je vais prendre ton backup, tiens, rien que pour te.
Ah bah bien sûr. Et franchement, et ça serait intelligent de sa part pour le coup. Surtout s'il est en position. Non, mais surtout s'il est en position. Tu vois, on y va. Non, mais c'est vrai.
Faire partie du podcast. J'arrête pas de
le faire. Il faut toujours prendre le backup des autres. Le truc intéressant avec Charbonnet pourrait être. Et Val, encore, je me tourne vers toi, mais les autres aussi. Charbonnet, j'entends dire qu'il pourrait avoir les caries qui sont plus intéressants, plus valuable en fantasy, c'est-à-dire sur la goal line et sur les jeux de passe. Et que Walker, ce serait plutôt les caries un peu inintéressants entre les lignes de 20 yards respectives. Et du coup, on serait dépendant d'un home run sur une grosse course, où là, par contre, il peut prendre tout le monde de vitesse et faire un gros play, mais qui serait moins utile sur la régularité. Mais encore une fois, tout dépendra de comment il est utilisé, mais c'est par rapport c'est au profil. Est-ce que ouais, par rapport au profil du joueur, est-ce que ça a du sens cette analyse ou pas?
Oui. Après, tout dépend de ce que va faire le coach en soi. Hein. Mais je te dirais que oui, à première vue, c'est sûrement ce qu'ils vont faire.
Il faut pas oublier l'offense aussi qui est quand même assez monstrueuse autour. Hein. T'as trois gros receveurs, un bon tight end.
Dont la grosse hype en plus JSN.
Ouais, carrément. Bon, ça, pour le coup, on parlait de T et Minicamp, ça va être quelque chose aussi à suivre. Mais donc, du coup, faut partager hein, les jeux.
Ouais. JSN, justement, année 1, est-ce qu'il peut avoir un impact immédiat ou est-ce qu'il sera. Hors blessure, évidemment, plutôt, je ne me rappelle plus trop les schémas de jeu de Seattle l'année dernière. Est-ce qu'il jouait, j'ai pas l'impression qu'il jouait beaucoup à trois receveurs, donc est-ce qu'il sera plutôt derrière Lockett, Metcalf, et qu'il faut attendre l'année prochaine, peut-être quand Lockett s'en va, pour qu'il explose vraiment? Ou est-ce que c'est encore un de ces rookies qui peut avoir un impact immédiat, comme on l'a vu ces dernières années avec des joueurs comme. Peut-être pas au niveau de Chase Jefferson, mais avec des joueurs comme Watson ou Drake London qui vraiment faisaient des grosses perfs dès le départ. Mais j'ai un petit peu peur de son rôle, moi, la première année.
En vrai, c'est ça le problème. C'est que, comme a dit avant, il y a tellement de monde à qui il va falloir donner la balle que JSN, ce sera peut-être le cinquième dans la hiérarchie à qui on va donner la balle sur la première année. Maintenant, je pense qu'il aura vraiment ce rôle de slot pour l'instant. Et je le vois mal quand même passer devant Lockett ou Metcalf. Quoi. Donc, tu vas le voir. Peut-être sur certains matchs, selon game plan, tu vas le voir un peu plus. Mais à mon avis, c'est pareil. Ce sera à drafter, mais pour le futur, quoi, pas pour l'instant T.
Ce qui est compliqué en plus, c'est qu'on est avec un quarterback qui a performé sur une saison. On n'est pas sur un quarterback qui est là depuis 10 ans, qui cartonne avec ses stats depuis. Là, il a fait One Year Wonder, peut-être, on ne sait pas. Donc, en plus, il y a cette interrogation-là.
Je trouve qu'on en parle beaucoup de questions. Geno Smith, mais pour l'instant, il a prouvé sur une année. Je suis d'accord avec toi. Il a prouvé sur une année. Rien ne nous dit qu'il va réitérer l'année qu'il a fait l'an dernier. Quoi.
Je lui souhaite. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve qu'on en fait un peu beaucoup avec lui.
Franchement, moi, je vois bien Metcalf complètement descendre. En vrai, il y a un gros risque avec Metcalf. Metcalf n'a jamais montré des stats de numéro 1 en fantasy depuis qu'il est arrivé. C'est un super receveur. Des matchs, qui a eu des matchs à 30 points. Il y a eu des matchs à 5 points également. Et moi, il y a plein de gens, et surtout soit dans la commu, soit alors dans les spécialistes de fantasy, qui mettent Lockett comme le plus grand perdant de l'arrivée de JSN. Moi, je ne suis pas complètement sûr. Déjà, je ne suis pas complètement sûr qu'il aille dans le slot uniquement. Je pense que petit à petit, il va avoir beaucoup plus de snaps à l'extérieur. Et à mon avis, c'est plus Metcalf qui va y perdre. Et moi, je me méfie un peu de cette offense des Seahawks. Et c'est plutôt de Metcalf dont je me méfie. Parce que pourquoi ? Parce que Metcalf, en fait, le ROI, il n'est pas bon. Metcalf, tu vas forcément le prendre haut. Normal, son ADP, il est super haut. Donc, le risk-reward, il est pour moi pas bon avec Metcalf. Alors que Lockett, plus personne n'y croit. Donc Lockett, tu peux le prendre plus tard. JSN, évidemment, bah, ça, en dynastie, si tu l'as pas au premier, deuxième tour, c'est mort. Mais ouais, Lockett, tu peux le prendre plus tard.
Ouais, tu peux le prendre plus tard. Mais en attendant, l'ADP de Tyler Lockett, il est 26 en receveur. Hein. Et DK Metcalf, il est 16. Hein.
Ah bah, mais tu vois, il y a encore 10 d'écart. Et malgré ça fait 2 saisons de suite qu'il y a un gros écart en ADP et que finalement Lockett fait des performances légèrement meilleures ou au moins équivalentes à celles de Metcalf. Ouais. Et d'accord. Effectivement, chaque année, on se dit, comment ?
Ouais, mais il y en a qui pensent que moi, c'est-à-dire.
Ils ne sont pas si loin. C'est-à-dire que, en fait, on est. DK Metcalf est quand même receveur numéro 16, VR16, donc il est. Je veux dire que déjà, Lockett, tu l'as que en fait une dizaine. Donc, les gens qui vont drafter, ils vont le voir, Tyler Lockett. Il ne va pas être en sous-marin. Tu ne vas pas pouvoir l'underdraft, quoi, entre guillemets. Tu vois ?
Mais très bien. Ça n'empêche que c'est le risque-reward n'est quand même pas le même. Et moi, je pense que tu as plus de risques avec Metcalf qu'avec Lockett. Ah, ok, Lockett est pris haut quand même parce qu'il a quand même. Encore une fois, en termes de stats, Marc il l'a dit, hein. Lockett, il a finalement toujours battu Metcalf quasiment. En termes, si tu fais une comparaison ADP, stats réels à la fin de saison, il a toujours
son
eu plus de valeur.
Son ratio est meilleur.
Et JSN pourrait très bien remplacer Metcalf.
Moi, je vois, sur Skipper, en tout cas, je vois Lockett WR. Ah non, mais je dis une connerie, c'est en dynastie, ok. Donc, ouais, 10 places d'écart en redraft, ouais. Mais c'est quand même significatif, 10 places sur un poste, parce que sachant que tu es encore relativement tôt dans la draft, dans le premier fin du premier tiers de la draft, ça fait facilement 2-3 rounds d'écart.
C'est donc pareil. Oui, mais alors dans ce cas, je mets tout de suite l'église au centre du village, quoi. Pour moi, Lockett, il est pris donc en receveur numéro 26 après un mec comme Calvin Ridley en receveur numéro 23. Donc je veux dire qu'en même temps, les ADP, moi, il y a des choses qui me surprennent. Calvin Ridley. Je ne sais pas pour vous, moi je ne comprends pas qu'on le prenne aussi haut. C'est pas possible. Parce que c'est un vrai débat. Le poste de receveur au Jacksonville Jaguars, en termes de TA, dernièrement, moi je regarde énormément à ce niveau-là.
Est-ce que tu as par rapport à Christian Kirk. Christian Kirk dans ta liste, pour savoir où il est pris.
Ah, mais il est pris Kirk, il est juste avant.
Juste avant, très 22
peu de temps avant. Ouais, oui, je crois qu'il est juste avant. Il y a très peu des cas, mais ou juste après, ça dépend après des. De où est-ce que tu subs les ADP, mais en gros, t'es 22 Ridley et t'es 26 Kirk, ou t'es 20 Kirk et 24 Ridley. Mais moi, je comprends pas techniquement. Après, Val est plus été sur le terrain, il sait plus ce que c'est que d'être joueur sur un terrain de football américain. Mais quand on a été absent aussi longtemps, comment peut-on être aussi hypé? Dans physiquement, cahier de jeu, avec en plus, bon, quarterback, ok, il a de l'expérience universitaire, etc. Il a fait une bonne fin de saison l'année dernière, mais on est sur des équipes assez jeunes, alors bien coachées, mais Calvin Ridley, techniquement, qu'on prenne par exemple avant Lockett, moi je trouve ça chelou. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, bah c'est pareil, ça, tout dépend. Enfin, c'est une question de risque et de récompense. C'est effectivement loin d'être quelque chose de sûr.
Non mais pour toi, Ridley, il a à apprendre avant Christian Kirk?
Non, moi
C'est le cas, hein, globalement, là.
Ouais, c'est un meilleur joueur.
Moi, j'hésiterais, ouais. Moi, je t'avoue que j'hésiterais. Après, je les ai dans différentes dynasties, tu vois.
Mais comment vous faites? Vous ne regardez pas la télé, les gars. Comment vous faites? Pour
Ah, moi, je trouve que
Ridley avant
Ridley, là, je suis d'accord avec toi sur le fait que Ridley, il n'a pas joué depuis 2 ans. Mais il n'a pas joué depuis 2 ans, ce n'est pas à cause de blessure. Donc, déjà,
Mais je m'en fous.
physiquement, il a quand même, ça fait quand même un moment qu'il est potentiellement, on est d'accord qu'il n'a pas joué sur un terrain, mais il s'est entraîné quand même, il a été tradé en début d'année. Donc, le cahier de jeu, il est pas, c'est pas comme s'il débarquait au training camp juste avant la pré-saison, etc. Je pense que ça, c'est des trucs qui certes jouent, mais que tu peux minorer en tout cas. Et je trouve que Christian Kirk a une très bonne alchimie avec Lawrence, et du coup, c'est pour ça que je suis inquiet comme toi. Mais je pense qu'en termes de niveau intrinsèque du joueur, Ridley est au-dessus, et Ridley n'est pas vieux.
Et
Et en plus de ça, il va être
Alex,
revanchard. Hein.
vas-y, vas-y, le show.
Bon.
Vas-y, le show.
Et en plus de ça, pour moi, il va être très revanchard. Il va falloir qu'il montre justement qu'il est. Voilà, il n'a pas été là pendant un an, alors dû à ses conneries, etc. Mais il
Suis prêt à prendre le pari, Alex, qu'il écrase son ADP en fin de saison. L'année dernière, Christian Kirk, il avait quoi comme concurrence? Il avait Zay Jones. Non, mais à un moment donné, moi j'aime bien Zay Jones. C'est sympa, c'est mignon. Il y avait Jamal Agnew. Oh là là,
Marvin
incroyable.
Jones.
Non, mais je pense
Marvin Jones.
que. Hein?
C'est
Marvin
Marvin
Jones.
Jones.
Il y avait Zay Marvin, mais l'ancien Détroit Marvin, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Les
Ouais,
deux
c'est ça.
étaient. Mais le fait est que, pour moi, Calvin Ridley et Christian Kirk, c'est pas le même niveau. Et
Non, mais
que, à partir
je parle pas de valeur intrinsèque du joueur, hein, moi. Attention, hein.
Non,
Je parle
mais.
pas
Et
de
donc,
valeur
du.
intrinsèque.
Et, mais donc là, en termes de risk-reward, on en reparlait là. Moi, c'est parfait, 20 et quelques pour Calvin Ridley. 20 et quelques, c'est quoi? 20 et quelques, c'est 5e, 6e tour? 6e tour, t'as pris quoi? T'as pris deux running backs, t'as deux receveurs, mettons un tight end, tu prends Calvin Ridley là en flex. Mais putain, mais c'est le bonheur. C'est le bonheur. T'as potentiellement un top 10 fantasy au 6e tour. Moi, c'est parfait. Et d'ailleurs, dans le même principe là, le côté ADP hyper bas des Chris Godwin, des Mike Evans et tout simplement parce que c'est Kyle Trask
Et qu'un
et mon ami et mon chouchou Baker Mayfield que je connais bien quand même maintenant. Moi, je trouve ça dingue l'ADP qu'ils ont. Pas typiquement, je trouve ça complètement dingue l'ADP qu'ils ont. Moi, vrai, Calvin Ridley en
Ils
20
sont
et
où?
quelques.
Ils sont où actuellement?
Eh ben, c'est pareil. Donc, Chris Godwin,
Ils sont dans le même lot.
c'est la fin de la vingtaine.
Ouais, Godwin est juste un petit peu au-dessus, si j'ai pas de bêtises.
Et Mike Evans, début de trentaine. Moi, je trouve ça complètement dingue. Mike Evans, c'est 10 ans qu'il fait plus de milliards. Et il a eu des James Winston. Hein. Il n'a pas eu que des Tom Brady. On oublie un petit peu ça. Et
Non mais
Baker Mayfield,
oui,
James Winston. Enfin, bref. Donc, pour moi, tu vois, un Calvin Ridley, en termes de risk-reward, moi, je préfère largement mettre Calf. Hein. Moi, je vous laisse mettre Calf et je prends Calvin Ridley. Hein.
attention,
premier pari de
moi
l'émission.
je parle de manière globale, hein. Je ne parle pas forcément dynastie. Hein.
Oui, non,
Un des
non,
deux.
allez, restons en
Bon, d'accord,
redraft.
ok.
Restons en redraft.
Ouais.
C'est comme j'ai mis Mike Evans, évidemment, qu'en dynastie, bon, bah, là, c'est pas la même chose, mais en redraft. Moi, franchement, je le
Je
prends.
sais
Hein.
pas.
Je prends Calvin Ridley au-dessus de Metcalf même.
Val physiquement.
Ah, mais c'est Ole Miss. Attends, 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 attends. Attends, c'est Ole Miss. Oh, on se calme.
Ouais. Mais je voulais pas le dire, mais bon.
Faut que
Non,
je
mais
choisisse
physiquement,
entre.
il. Non, mais physiquement, il est capable. Je veux dire, je parle pas uniquement de fantasy. Physiquement, même si c'était pas une blessure ou quoi que ce soit, à ce niveau-là, revenir en NFL après autant de temps, autant d'absence.
C'est compliqué. Tu perds le rythme, et vu que tu as quand même très peu de matchs, il va falloir vite se remettre dedans. Et soit il va arriver à un moment, soit il va arriver en sur-régime, soit il va monter en sur-régime, et c'est là qu'il va peut-être péter, se blesser, ou juste péter niveau mental. Il va y avoir une chute à un moment ou à un autre. C'est très rare les mecs qui sont capables de revenir comme ça, 2 ans, même pas de blessure, mais de revenir et de faire une saison pleine. Sinon, le mec, c'est un top 5 receveur de la ligue.
Mais est-ce que tu penses pas justement qu'avec la force que l'offense a là au niveau des Jaguars, est-ce qu'il va pas être un petit peu reposé vu qu'il y a quand même, quelques personnes à côté de lui?
Bah, s'il est reposé, c'est-à-dire qu'il joue pas trop.
C'est pas forcément pas jouer trop, tu vois, mais je veux dire, est-ce qu'il sera pas, on va dire.
Mais tu veux dire ménager
le cover, voilà, c'est ça. DB.
Bah, peut-être sur les 3-4 premiers matchs, mais après, si déjà sur 4 matchs tu fais pas de points avec lui en fantasy, c'est chiant quoi.
C'est pas idéal. Pour toi, ça va être les 3-4 premiers matchs qui vont être importants quoi.
Bah, c'est soit en fait, généralement, je dis bien généralement, t'as deux figures qui se passent, deux cas de figure. C'est soit le mec il est tranquillement réinstallé dans l'équipe, donc ça monte au fur et à mesure des semaines, il prend plus de temps de jeu. Soit il va jouer direct, il suffit qu'il fasse un bon match, il va être surutilisé, il va claquer en mi-saison. Après, je pense qu'ils sont assez intelligents pour l'intégrer tranquillement, faire revenir tranquillement. Mais bon, après, on sait comment ça va aussi en NFL, on cherche toujours tout vite, tout rapidement. Donc,
ouais, surtout qu'ils vont être prétendants à la victoire dans la deux divisions, etc.
Mais ça fait un moment qu'ils ont tradé pour lui, hein. Et ça fait un moment qu'ils peuvent le réintroduire. D'accord, c'est de l'entraînement, c'est pas pareil, ok, mais il est pas out of the blue sur un truc comme ça où il est tradé 3 jours avant le début de saison et tu le mets à bloc parce qu'il est tout seul et parce que ses ancêtres le sauveur de l'attaque, tu vois.
Il avait le droit de participer aux entraînements, etc. ou pas du tout?
Je pense à la fin, depuis la fin de la saison. Donc, je pense qu'il va faire toute la pré-saison tranquille et qu'il a dû faire tout le cahier de jeu déjà, même s'il a le droit principal d'entraînement, au moins de l'avoir, le cahier de jeu, et de voir comment ça se passe et tout ça, au moins d'échanger.
Parce que c'est pas réinstallé, hein, c'est installé. Hein.
Oui.
Il n'a pas encore joué avec les Jaguars.
Hein. Non, il n'a pas joué, mais par contre, ouais, au niveau physique, il a déjà joué en NFL, donc c'est pas un rookie qui découvre les rigueurs de. Du jeu pro non plus.
4 ans quand même, avec un concurrent qui est Julio Jones. Hein.
Ouais, mais alors pour le coup, alors c'est vrai, on va pas passer toute l'émission sur Ridley, mais pour le coup, Jones, je trouve que ça a libéré pas mal d'espace pour Ridley à l'époque. Et ouais, justement, quand il est parti, les 3 premiers matchs, parce qu'on n'a pas eu beaucoup finalement, on a eu 3 matchs avant qu'il ait sa dépression, mais ces 3 matchs-là, il avait vachement déçu les 3 premiers matchs de cette saison-là, alors qu'on s'attendait tous à ce qu'il explose justement. Ok. Après, il y avait aussi Matt Ryan qui vieillissait. je voulais parler un petit peu de rookies aussi, une dernière fois, mais pas sans aller trop profond pour la dynastie, tout ça, mais des rookies qui pourraient, dans des depth charts un peu prenables, potentiellement avoir des impacts, notamment en receveur, parce que ces dernières années, on a vu plusieurs receveurs rookies qui tout d'un coup faisaient des grosses perfs. Dans des équipes où il n'y a pas énormément de receveurs derrière éventuellement une star, ou voire personne. Donc il y a les 3 mecs dont je voulais parler, on peut en parler dans n'importe quel ordre. Michael Wilson à Arizona, dans lequel, suite au départ de Hopkins, il n'y a plus que Marquise Brown vraiment comme star, et les autres, à mon avis, ils sont tous prenables. Puka Nacua aux Rams, pareil, derrière Cooper Kupp, il n'y a pas grand chose. Et le troisième, merci, j'ai oublié qui c'était. Bon, peu importe. Si, Marvin Mims. Marvin Mims. Allez-y, je ne sais pas dans quel ordre, mais dites-moi ce que vous pensez de ces receveurs et est-ce que ils ont une chance cette saison de monter dans la depth chart et d'avoir un rôle pertinent pour la fantasy en redraft, hein, je parle.
Moi, j'aime beaucoup Nakua.
Bah, si justement, moi tu vois, je voulais commencer par lui et je pense qu'il faut mettre un petit peu de respect quand même sur les quelques receveurs qu'il y a dans l'effectif, dont Van Jefferson, dont Tutu Atwell, qui a quand même été bien utilisé l'année dernière. T'as Lance McCutcheon qui va monter en puissance, ça j'en suis certain, parce que c'était un de mes joueurs préférés sur la fin de draft il y a 2 ans. T'as toujours Ben Skoronek qui a été bien utilisé. Certes, c'est pas extraordinaire, mais de là à penser que Puka il va être un numéro 2, un numéro 3, ça me paraît un peu optimiste.
Ouais, il y a quand même des étapes à passer. Ouais.
Et si je peux me permettre, vu qu'on est sur les Rams, Zach Evans, le running back.
Oui,
ça je dis pas raison. Ça parce qu'il est Dolmis. Vraiment, je le pense. Je pense qu'il a son shot.
Bah, Lucho, toi, tu l'as pris dans plusieurs endroits. J'ai l'impression que tu étais
tout à fait. Ouais. Bah après, j'ai beaucoup utilisé, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai beaucoup utilisé les fiches de Val, justement, pour préparer un petit peu les rookie drafts, etc. Et c'est vrai que... Mais non, mais arrêtez. Mais ça y est, je reconnais son travail, point barre, c'est tout.
Cheat code.
J'ai dit, le petit Zach Evans, il m'intéresse. Et c'est vrai que j'ai essayé de l'avoir sur plusieurs ligues maintenant. On verra après, la situation des Rams, elle est quand même particulière. On ne sait pas toujours pas si Stafford sera là et en bonne santé, avec une bonne épaule ou pas. Donc, mais ça a surveillé, on ne sait jamais. Hein.
Est-ce que le coach est en bonne santé mentale aussi, c'est surtout ça, je pense.
Alors, c'est marrant que tu parles des coachs, Alex, parce que j'allais dire, il y a quand même deux équipes qui ont des coachs créatifs et un dont on ne sait pas trop, en fait. Et donc, tu vois, on parlait de Skoronek qui était très bien utilisé. Donc, le problème avec ces coachs-là, c'est que pour la fantasy, c'est un peu compliqué quand tu as pas mal d'armes. Parce qu'ils savent créer des schémas de jeu en fonction des key players pour ces schémas. Et au Rams, ça peut être le cas parce que ça va être une équipe moyenne, donc il va falloir jouer sur certains points forts à certains moments. Moi, franchement, les Broncos, bah, c'est un petit peu compliqué dans le corps de receveur. Il y en a qui croient plus trop en Jerry Jeudy. Moi, je sais pas trop comment me positionner. J'ai pas trop envie. Voilà, je sais pas trop. J'aime bien moi Tim Patrick perso, mais donc c'est pour moi c'est un petit peu difficile. Pour Mims. Et puis Jonathan Gannon, les Cardinals, on ne sait pas trop ce qu'il va faire en fait. Et c'est ça le
point d'interrogation. Va... Quel QB d'abord.
Et puis après, il n'y a plus de... Et voilà. Et après, il n'y a pas de QB.
Là, c'est pas qu'il n'y a pas de QB. Quel QB?
Non, mais. Ouais. Bah, même. Ouais. Je vais faire un bâtard. J'allais dire, même avec Kyler Murray, on ne sait pas trop, tu vois. Enfin, si tu le fais démarrer trop tôt,
mais toi, tu ne peux pas le blairer, Kyler Murray. Ouais,
mais non,
t'as jamais pu
non,
le blairer, ce mec.
Non, mais me fais pas passer pour c'est quelqu'un d'autre de la commune NFL.
Franz, t'es un vilain.
C'est pas vrai. C'est juste que le mec, on ne sait pas comment il va revenir. S'il revient trop tôt, on ne sait pas comment il va distribuer. C'est juste ça. Mais donc, du coup, dans les trois... C'est la grande difficulté, c'est la distribution. Après, la concurrence, il y a plus de concurrence quand même aux Rams et aux Broncos. Donc, peut-être que tu peux jouer la carte de l'application. Je prends le moins de concurrence en termes de receveur avec justement un coach que je ne connais pas. Et peut-être que le QB qui va remplacer Kyler Murray, eh ben, il va distribuer juste à l'endroit le plus facile. Et Wilson, il va aller dans des endroits faciles. Hein. Il ne va pas faire les 10 50 yards.
Ouais.
Après, le gros red flag de Wilson, ça a été quand même les blessures. Hein. Il a été très, très souvent blessé. Je crois qu'il a deux saisons quasiment blanches. Et je me demande si l'année dernière, il ne se blesse pas, ou c'était sur sa première saison, je ne me rappelle plus, mais il a au moins deux saisons sûres où il se blesse. Il faut voir aussi ce que ça va donner au plus haut niveau. Après, techniquement et tout, gabarit, et je pense qu'il a vraiment il a gros potentiel à devenir au moins numéro 2. Mais après, les blessures, quoi.
Ouais. Ok. Donc, on n'utilise pas trop de...
Il y a quand même du lourd avant. Hein. Il y a quand même... Enfin, je veux dire, Randall Moore, il a montré quand même qu'il avait un potentiel. Dortch, il est pas, c'est pas un bras cassé non plus. Donc, il y a quand même du travail, quoi.
Ouais. Okay, donc on n'utilisera pas trop de capital.
Pardon Marc.
Pardon. Hein non, je dirais on n'utilisera pas trop de capital à la draft pour ces joueurs-là. Michael Wilson, je sais que c'est un favori de Ryan, c'est pour ça que je l'ai cité. Plutôt des joueurs à mettre sur un banc profond en dynastique et sur la watchlist éventuellement pour la pré-saison, mais pas trop d'impact cette année attendu.
Mais tu sais qu'il y a deux mecs qui sont vraiment à surveiller. C'est chez les Bengals, c'est Charlie Jones et André Yosivas. C'est deux mecs qui ne vont pas forcément beaucoup jouer sur la première année, mais qui vont il y en a forcément un des deux qui va prendre la place de
Tyler Bay.
Ouais, un des deux qui va partir l'année prochaine. C'est ça, si tu veux citer un des deux receveurs sur la première année, tu es au moins sûr de quasiment avoir un titulaire dans 3 ans.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens de garder les trois.
C'est ça, ouais, c'est ça. Attends, je reprends le
après, le salaire de Joe Mixon, ça se trouve, ils n'auront pas à le payer. Hein.
Le salaire de
Joe Mixon.
Mmh. Ah, ouais. Ouais.
Trouve, le salaire de Joe Mixon, ils n'auront pas le payé. Et donc, du coup, ils auront un petit peu de...
Enfin, bon, Tyler Boyd, ça fait beaucoup à payer quand même. Donc, derrière, avoir André Yosiva, c'est Charlie Jones, c'est... tu peux te permettre d'en lâcher un, quoi.
Oui, Boyd, je ne suis pas surpris s'il est tradé dans l'année, si un des deux rookies donne satisfaction. Hein. Ouais, autant Higgins, il a l'air quand même bien installé, etc. Et si tu dois faire l'effort, peut-être que c'est pour lui. Mais Boyd, c'est probable qu'il puisse partir dans pas longtemps.
Mais est-ce que Higgins ne va pas vouloir partir pour être numéro 1 quelque part?
Est-ce qu'il a le potentiel d'être numéro 1? Je ne suis pas forcément sûr. Hein. Par contre, c'est un très très bon numéro 2.
Ouais, je veux dire, pour moi, tu le mets avec Davante Adams aux Raiders, si tu as un bon QB. C'est ça, c'est ce type de poste. Hein.
Comment ça, si t'as un bon QB? T'as déjà un bon QB?
Moi, j'ai envie d'entendre Marc sur un truc par rapport aux ETA. Qu'est-ce que t'en penses, du coup, du fait que Josh Downs, apparemment, marche super bien avec Anthony Richardson, Marc?
J'étais sûr.
Je pense que ça veut dire que je suis vendeur de Michael Pittman actuellement, à sa valeur actuelle. Parce que je pense pas que Richardson va, en tout cas pas la première année, avoir un volume de passes suffisant pour que Pittman soit un bon receveur 1 en fantasy. Downs, je connais pas trop parce que je vous dis, moi, le collège, je me fie à vous. Mais quand il avait été drafté, ils avaient dit que c'était le genre de joueur qui pourrait aider Richardson. Justement, avec Alec Pierce qui était plus dans les trucs un peu profonds, et Downs qui serait plus dans les jeux un peu plus courts et intermédiaires et rapides, sur une lecture rapide. Mais on ne va pas revenir sur Richardson. La question, ça va être, pour le moment, il a l'air de, on dit du bien, donc peut-être qu'il startera dès le départ ou pas. Moi tout ce que j'espère, c'est qu'il ne starte pas trop tôt, pas s'il n'est pas prêt, pour pas qu'il se plante complètement et que ça se passe super mal. Voilà. S'il s'entend bien avec Richardson, c'est une très bonne nouvelle.
Moi, j'aurais bien voulu avoir un avis aussi de Val sur les tight ends, parce que c'est vrai que c'est un poste qu'on parle pas forcément énormément en fantasy, mais qui peut être assez important dans certaines ligues. Au niveau des rookies tight ends, tu penses que Quels sont ceux qui peuvent tirer leur épingle?
Forcément, j'ai envie de te dire Dalton Kincaid. Parce que ce que j'en avais parlé avec Pierre, qui est CM du compte des Bills France, Dawson Knox, il va plutôt s'aligner maintenant, parce qu'apparemment, il a beaucoup progressé sur le run block. Et à mon avis, ils vont laisser Kincaid vraiment en Y, donc potentiellement faire du point à la passe, et dans le futur tu as un top 3 tight end de la ligue, donc voilà, c'est Kincaid en 1. Maintenant, je pense que les Riders aussi, avec Mayer, avant, comment il s'appelle déjà votre coach aux Riders, j'ai oublié son nom,
McDaniels.
Il a quand même connu de très bons tight end, donc il va forcément très bien l'utiliser à mon avis. Ça va faire un point. À mon avis, Mayer, tu ne vas pas forcément te grimper, je ne sais pas, faire des 20 points, mais tu vas avoir une bonne base de 9 points à chaque fois, 10 points, quelque chose comme ça. Maintenant, après, si tu vas chercher un petit peu plus loin, je dirais Sam Laporta, c'est possible que...
Ah ouais.
C'est un mec qui fit dans un certain système. J'ai toujours dit, s'il est dans le bon système, ça va faire des points. Et après... Il y a un des deux tight end à Green Bay qui a regardé Musgrave ou...
Et est-ce que tu as une prédiction sur Musgrave ou Kraft, lequel des deux a le plus de potentiel tôt dans sa carrière?
Musgrave, je pense, parce que Kraft, c'est un mec à développer. Musgrave, je pense qu'en Y, on va sûrement l'utiliser plus, et souvent aussi en red zone pour sa taille, pour son physique longiligne. Et Kraft, c'est un potentiel à développer, donc pas forcément qu'on va voir sur tous les jeux ou dès la première année. Donc je dirais Musgrave.
Et même pour les autres, on sait que souvent le tight end, c'est une position où ils mettent 2-3 ans à devenir un peu mature et ils ont un peu confiance, le coach staff a un peu confiance. Il y en a un, si on parle de redraft, que tu vois productif dès year one comme ça? Parce que là, tu parlais de Kincaid, si Dawson Knox est repositionné, Mayer, s'il est bien utilisé, etc. Ça peut être, tu penses qu'ils ont les armes déjà et la polyvalence pour être, dès cette année, productif réception?
Ah oui.
Ok.
Pour moi, je vois bien Mayer être entre 7 et 9 points de moyenne, quelque chose comme ça, genre, tu sais, je sais pas, un TD, enfin, il va sûrement être visé au moins une fois en red zone par match, sûr, et il va faire
un touch d'arme par match.
Voilà, c'est 50-60 yards, yes. Donc, ça rapporte un petit peu de points, et Kincaid, je peux pas dire ça, que c'est quasiment les top 10 des meilleures mains de la ligue, parce qu'on l'a pas encore vu, on sait pas ce qui se passe, mais potentiellement tu as un des meilleurs catcheurs de la ligue. Ouais. Donc je vois pas comment on peut pas l'utiliser, en fait.
D'accord, donc en fin de draft, en redraft, pour avoir un tight end 2 avec potentiellement un gros hit, tu y crois dès cette année?
Ah oui.
Ok.
Mais et concernant Washington ou Steelers? Excuse-moi, Alex.
Non, juste pour terminer sur Kincaid, je rejoins sur ce que posait comme question Marc au début de l'émission. Vous voyez que si on tient compte des OTA, on est plutôt refroidi sur Kincaid, inversement.
Ouais.
Parce que si on écoute Ken Dorsey, le coach offensif des Bills, il dit, à l'heure actuelle, on est quand même à milieu de savoir en quoi consiste Kincaid. Nous sommes en train d'apprendre de lui, et lui, il est en train d'apprendre de nous. Donc, en gros, c'est pas la peine de le regarder. À l'heure actuelle, c'est pas ça.
Oui, mais c'est une ça, question actuelle. Mais après, il y a une question de concurrence au milieu de terrain également. Je veux dire, t'as les gens en red zone. Donc, potentiellement, il peut aller vers l'extérieur pour aller attraper près de la ligne de touche. Mais le fait est que au milieu de terrain, il y a toujours une déception au niveau du slot après à Buffalo. Et après, il peut avoir plein de catchs au milieu de terrain. Parce que Stephon Diggs, il peut étirer, certes. Mais après.
Tu es en train de dire ça, hein.
Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que uniquement, rien qu'en regardant la depth chart, tu te rends bien compte quand même qu'il y a quand même une énorme lacune à Buffalo depuis 2-3 ans. Ce Gabe Davis.
C'est un débat. C'est le bordel à Buffalo.
Gabe Davis a déçu. Khalil Shakir. On aime, on n'aime pas, mais c'est pas forcément. Toi, ça va pas être l'endroit où. Enfin, ça va pas être le joueur exceptionnel que tu attends. Donc, du coup, il y a plein de ballons potentiels au milieu de terrain. Et donc, du coup, des points. Excuse-moi, Lucho, excuse-moi, tu voulais dire un truc.
Non, ouais, je voulais juste parler un peu de Washington, qui, à un moment donné, il y avait une petite hype un peu sur lui, enfin, comme quoi il était trop descendu, etc. Mais t'en penses quoi au niveau fantasy? Parce qu'il va surtout être utilisé pour le run block, d'après toi, ou est-ce que il peut avoir une valeur quand même?
Bah, je te dirais plutôt le run block. En plus, il y a eu une grosse alerte sur un de ses genoux, si je me souviens bien. Maintenant, je pense pas qu'il soit descendu à la draft. Je pense qu'il a été pris à son juste milieu, mais je pense qu'il a quand même été pris principalement pour son run block. Et pareil, c'est à développer, c'est en cours de développement son jeu à la passe. Est-ce qu'il va pouvoir faire est-ce qu'il va falloir que les défenses le surveillent s'il est aligné? Oui, forcément. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des petits points s'il est titulaire et qu'il joue, je sais pas, 80% des snaps? Bah, tu as des grosses menaces en play action quand même. Donc, ça rapporte des points. Mais de là à rapporter beaucoup de points, je suis pas sûr sur la première année et peut-être pas aussi sur la deuxième année. Après, je connais pas bien la situation sur les tight ends dans son équipe. Mais...
Il y a Freyer Moss qui a fait une bonne saison l'an dernier déjà.
Oui, ah oui, bah, il y a lui. Du run block, de la play action, mais sur des petits tracés, quoi.
Je prends Freyer Moss tous les jours.
Ah oui, oui.
Non, mais il n'y a pas photo.
Moi, je voulais avoir l'avis du groupe sur trois receveurs qui sont un petit peu sleepers actuellement, parce que ils ont tous les trois un gros potentiel, ils sont draftés en dehors du top 30 à leur position pour le moment. Et je voulais savoir, selon vous, lequel a le plus de chances de vraiment faire un gros pas en avant cette saison. Les trois joueurs, c'est Brandon Ayuk, Treylon Burks et Kadarius Toney. Est-ce qu'il y en a un des trois? Oui, bon, toi, Lucho, tu n'as pas le droit de répondre. Est-ce qu'il y en a un des trois ou deux parmi les trois que vous voyez faire un gros pas en avant et battre significativement leur ADP de là, actuellement WR30 pour Ayuk, 35 pour Burks et je crois 39 pour Toney.
Burks. Oh ouais, quel talent. Après, il était blessé, je crois, en début de, ouais, d'année.
Il est venu en début d'année hors de forme au camp. Et ouais, il a eu beaucoup de mal à démarrer, mais il a commencé à faire des belles perfs en deuxième moitié de saison.
Parce que je me souviens que ses amis Green Bay, c'était solide.
Après, c'est le seul WR dans l'équipe aussi.
Ouais, c'est le dernier mec qui est debout dans le bar.
Il y a Kyle Phillips, il va être beaucoup utilisé, à mon avis, cette année. Hein.
Et Chigouzem, Kyle Phillips qui avait fait un bon match aussi, qui s'était blessé très rapidement l'année dernière. Ouais, c'est des joueurs dans des équipes médiocres, mais qui ont forcément du volume de jeu, donc faut voir.
Alors ça, ceci dit, si Hopkins finit par signer au Titan demain, tout ce qu'on vient de dire dégage. Hein. Mais Burks, ce sera plus intéressant, je pense, que Toney. Et le gap par rapport à Ayuk, je le vois pas faire une révolution par rapport à ce qu'il faisait l'an dernier.
Il a fait WR15 l'an dernier.
Ouais, c'est ça qui est surprenant. C'est l'an dernier, il fait WR15.
C'est surprenant, mais arrêtez de dire que c'est surprenant.
Non, non, j'ai pas dit. J'ai dit c'est surprenant qu'il soit drafté encore WR30 alors qu'il a fini WR15 l'an dernier et qu'il n'y a rien qui change.
Moi, l'an dernier, je t'avais déjà dit Ayuk finira devant Divo Samuel. Ça a été le cas et je te le redis cette année. C'est, pour moi, il finira largement devant Divo.
On arrête pas de chercher le nouveau
running back, c'est normal.
Non, mais c'est pas. Non, mais même en dehors de ça.
Ouais, c'est pas la même position.
Je pense qu'il est hyper sous-évalué, Ayuk. Je ne dis pas que c'est un top receveur, je dis pas ça, mais pour moi, il est top 20, il est top 20 facile.
Mais je pense qu'Ayuk, l'ADP d'Ayuk ne vient pas d'Ayuk. Il vient de l'offense des Niners. Et du fait que tu ne sais pas où le ballon va aller et qu'il y a tellement d'armes. Enfin, incroyable.
Non, je suis complètement d'accord avec toi, Franz. Après, moi, voilà, je continue de dire que Ayuk, pour moi, est sous-évalué et qu'il mérite largement top 20.
Ouais, je ne l'ai pas, mais t'as sa production entre avant et après CMC.
Il était encore plus productif après CMC.
Et j'ai une question, est-ce que tu as sa production avant et avant Brock Purdy?
Il me semble qu'il était, en fait... Tout le monde pense que, si je dis pas de bêtises, il faudra regarder la stat, mais je l'ai vu passer il n'y a pas très longtemps. Si je dis pas de bêtises, après Purdy et après CMC, il était limite plus productif qu'avant.
Dès que tu as un quarterback qui lui lance le ballon et qu'il y a des brèches qui sont ouvertes par ton running back de talent.
Ça.
CMC est un bon QB2, c'est logique.
C'est ça.
Non, après, comme tu dis, l'offense, ça allait tellement. Enfin, ça peut péter de partout avec les Niners. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir la pièce maîtresse parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais voilà, c'est Ayuk a été beaucoup utilisé et je pense qu'il sera encore cette année. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne le soit pas cette année encore.
Ah, il y a une raison, c'est Shanahan qui adore varier.
Certes.
On n'a pas parlé de. Je vais faire un petit peu le tour de vos équipes du coup. On n'a pas parlé de Carolina dans ce podcast encore. Bryce Young, numéro 1 à la draft. Plutôt des échos positifs jusqu'ici aux OTA. Un rapport avec les receveurs qui viennent d'arriver qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Franz?
Alors, comme je disais au tout début de l'émission, évidemment que Frank Reich ne va pas dire que Andy Dalton est forcément le QB numéro 1 et le meilleur de son effectif parce qu'il faut quand même vendre des choses. Donc, en étant objectif, la hype autour de Bryce Young, elle est logique en termes de com. En revanche, ce qui se dit autre que les coaching staff et tout, c'est que apparemment, c'est un cerveau. Voilà. Donc, c'est un mec qui lit super bien, qui apprend très très vite et qui apprend très vite en théorie. Donc toute la peur autour de son physique n'est pas balayée d'un revers de main par les OTA, bien entendu. Hein. Mais ce qu'on savait de son cerveau est confirmé, et donc il a gagné sa place de numéro 1. C'est confirmé dès le début. Et après, Jonathan Mingo, parce que tu vas peut-être nous demander par rapport à Jonathan Mingo, il y a apparemment une belle progression de Jonathan Mingo durant les 4 dernières semaines, notamment depuis que Bryce Young est avec l'équipe numéro 1. Et que, bon, après, moi je suis un grand fan de TMJ et je pense que Terrace Marshall sera notre receveur numéro 1, mais Jonathan Mingo peut être une grosse surprise. En fantasy, c'est un receveur à prendre en dynastie et peut-être même à prendre en redraft dans les derniers tours.
Les vétérans, tu crois pas du tout ?
Adam Thielen en fantasy, pas du tout. Donc, Adam Thielen sera bon à prendre en fantasy quand il y aura un blessé.
Okay.
Que ce soit un blessé à Carolina ou un blessé dans vos effectifs, moi je déconseillerais de le drafter ou alors vraiment s'il est dispo très tard.
Dans un truc super zip.
Et ça dépend du nombre d'équipes que vous êtes et tout ça. Mais, après les Laviska Shenault, on rigole beaucoup, Lucho, Alex et moi, sur Laviska Shenault parce que Dibo Samuel, tout ça, enfin bref. c'est très sympa, mais pour la fantasy c'est pas constant, donc non, pour moi Miles Sanders pour moi est sous-coté, donc son ADP est trop bas,
il part très très loin,
ouais,
très loin,
mais sauf qu'on va beaucoup faire, on va beaucoup compter sur lui quand même. Et puis après, il faut prendre TMJ et Jonathan Mingo et Bryce Young en remplaçant
à upside. Nico, Pat, on a James Robinson en qui t'avais des espoirs qui a été cut. Il a eu du mal à rester sur le terrain pendant les entraînements. Et du coup, encore une grosse saison pour Stevenson éventuellement. Et côté receveur, la signature de la prolongation de Davante Parker.
Alors, même public service announcement que tout à l'heure, la fanbase des Patriots, ça s'enflamme sur les signatures de Hopkins et de Cook. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas là et j'aimerais bien notamment que Cook ne soit pas là. Mais bon, on verra le reste. Sinon, Stevenson, évidemment, RB1. Et RB1 sympa, parce qu'il peut faire un peu tout, et qu'on va continuer, je pense, à courir. La bataille du QB, apparemment, elle n'aura pas lieu, donc ce sera Mac Jones qui va commencer. Et sur les receveurs, moi, je suis surpris de la prolongation de Parker, mais bon, le deal est team-friendly, parce qu'il n'y a pas beaucoup de garanties. Et pourquoi pas. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup, voire pas du tout, parler de Smith-Schuster, et ça m'étonne. Parce que je trouve qu'il a été plutôt intéressant l'an dernier et qu'il peut encore être intéressant cette année. Et on entend parler beaucoup de Thornton, qui était drafté l'an dernier en sophomore, qui aurait beaucoup progressé sur l'année. Après, les rookies de cette année, ça parle de Bouti, qui était censé être une grosse hype l'an dernier, et qui, du coup, cette année, en étant drafté au sixième tour, apparemment, c'est juste que ça... Pour l'instant, ça ne le fait pas du tout. Et qu'il aurait été dépassé dans la depth chart par DeMario Douglas. Donc c'est lui, éventuellement, si vraiment il y a un receveur très, 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 très deep que vous voulez prendre les New England, c'est lui. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les running backs? Pas grand-chose, parce que pour l'instant, Stevenson est un peu le seul mec qui a vraiment du vécu. Derrière, c'est Strong et Harris, on ne sait pas trop. Et sur les tight ends, pour l'instant, il y a les deux et Gesicki aurait. Il y a Hunter Henry et Gesicki. Et Gesicki aurait montré beaucoup de choses, mais pas forcément aligné tight end plus receveur. Ça peut être intéressant à faire 2-3 points. Un peu ce que disait Val tout à l'heure sur un mec qui est à 7-10 points par match. Il ne fera jamais les 20, mais il aura, je pense, du volume à chaque action. Enfin, à chaque sortie.
Cool. Et pour finir, Alex et Val, Green Bay, moi, ce qui m'intéresse, c'est les receveurs. Beaucoup de jeunes receveurs avec un jeune QB qui est déjà là depuis un certain temps, mais qui va starter pour la première fois. Entre Christian Watson, Romeo Doubs, les deux rookies, Jaden Reed, Jaden Reed, et Weeks, et puis les deux tight ends. Est-ce que c'est des batailles de camp que vous allez, des batailles de camp d'entraînement que vous allez suivre de près pour savoir comment se dessine cette hiérarchie, ou est-ce que selon vous elle est déjà relativement claire pour le début de la saison?
Val, il a oublié un nom. Dis-lui quel nom il a oublié.
J'allais dire, dommage qu'ils vont tous se faire passer devant par Malik If, mais bon, ça c'est pas grave.
Non, mais moi j'avais pensé à Touré.
Ah, prends des notes. Ah oui, non, mais Samori Touré ça, aussi, ouais. Normalement c'est bien meilleur, mais bon, on le fait pas jouer, alors...
Ouais, mais sauf qu'il y a eu une petite hype, j'ai vu pas mal de vidéos traîner sur certaines réceptions de Touré qui avaient l'air assez spectaculaires.
Après, moi, je t'avoue que j'ai là les outils et tout, j'ai rien suivi sur Green Bay, donc je ne sais rien du tout.
Il n'y a rien sur Green Bay.
Bon, bah, c'est
il ne se passe rien, Green Bay. Comme ça, la seule chose qui se passe, en fait, c'est...
Moi, je les ai vus prendre des vélos, les vélos des enfants.
Voilà, bah, non, c'est la tradition. Ça, c'est la tradition, voilà. Et les matchs de softball caritatifs.
Et Jordan Love Jones. Sur des terrains à Paris aussi.
Voilà, et sans Deshaun Watson. mais voilà, et de la pub, et de la pub, et de la pub, et de la pub, et de la pub pour Deshaun Watson. Et pour Jordan Love, je veux dire.
Le lapsus.
J'ai pas un lapsus. Non, parce que justement, j'avais pensé à justement à la plan com où il y avait Deshaun Watson, et en fait, non.
Ouais.
Et avant de se quitter, moi, je voulais, enfin, sauf si on avait encore quelqu'un dont on voulait parler. On n'a pas parlé des Browns, puisque tu parlais de Watson, mais il y a eu un petit peu de hype aussi autour de Elijah Moore.
On fera d'autres émissions,
t'inquiète. Ouais, il y a de l'hype, on en fera une autre, ouais. Auprès de joueurs, à propos de joueurs étonnants.
Ouais, on va en faire d'autres.
Ouais, moi, je voulais qu'on parle à Val un petit peu de l'annonce que tu as fait il y a quelques semaines, et te féliciter d'abord.
Merci.
Mais ouais, comprendre un petit peu mieux quel sera ton rôle et en quoi ça consiste. Et que tu parles un petit peu des opportunités du coup qui en découlent à la fois pour toi et éventuellement pour les gens qui nous suivent.
Bah écoute, déjà ce qui est marrant, c'est que moi c'est un task qui m'a été proposé il y a déjà un moment et ça m'intéressait pas pour la simple et bonne raison que bah Alex lui il est un petit peu au courant, mais j'ai un plus gros truc qui devrait arriver si je réussis les examens. Alors, j'ai pas trop envie d'en parler. Il y a certaines personnes, bah, veut tripler, des potes et tout, qui le savent. Maintenant, c'est pas un truc que je peux et que j'ai trop envie de parler pour l'instant. Surtout si je le rate, je serai comme un con. Mais c'est bien, bien plus grand. C'est point de vue division 1. Donc, voilà, c'est juste pour donner une idée. Et finalement, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas mettre un petit pied dans le milieu. J'ai accepté. Je dis, je vais voir comment ça se passe. C'est toujours sympa de mettre un pied. Et effectivement, c'est qu'on se rend compte de pas mal de choses, même de beaucoup de choses. Et que c'est un milieu très petit. Et il y a des choses qu'on n'imaginerait pas. Mais bon, ça arrive. Et même, vu que je recrute, en fait, bah, du coup, mon poste, c'est d'être recruteur. Principalement, scout recruteur en Europe, en Afrique. Moi aussi, je peux faire les États-Unis. Mais voilà, ils attendent de moi que je ramène des joueurs européens. Parce que les joueurs européens et africains, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément qui habitent pas aux États-Unis, donc ils n'ont pas la possibilité de jouer là-bas, alors qu'ils ont le niveau D1 pour beaucoup, ou même juste tout simplement d'être en JUCO, D2, FCS, donc ce qui est déjà très très bien, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est très bien. Donc mon but, c'est de recruter ces joueurs-là. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une prep school, donc c'est un petit peu particulier. Donc c'est une école préparatoire. En fait, c'est un espèce de tremplin. C'est un peu comme un sport études en France, entre guillemets. C'est vraiment tremplin pour aller vers l'université. C'est pour mettre à jour tes notes, pour que tu aies le bon GPA, parce que si tu veux être recruté sur des divisions 1-2, il faut que tu aies un bon GPA. Et ça me permet de te préparer physiquement si tu ne l'es pas, et, ou juste de te montrer pour aller au camp, etc. Parce qu'il ne faut pas croire, mais les équipes de Division 1, on a FAU, il y a qui a appelé coach la dernière fois. Il y a eu 3-4 équipes de D1 qui nous ont appelés pour demander qui on avait. Donc, ça va vite. Voilà, c'est une nouvelle équipe, c'est dans l'Alabama, c'est une équipe qui va faire sa première année cette année. Elle est plutôt connue pour le baseball, cette prep school, parce qu'elle a envoyé 70-75 joueurs en MLB. Donc voilà, c'est une
petite aventure en attendant de voir si je réussis la grosse.
Je peux poser une question, Marc?
Bien sûr, vas-y.
Et du coup, tu regardes beaucoup de tape ou tu as dû te déplacer un petit peu? Et si oui, et la différence entre la tape et en vrai, du coup, comment tu étudies le truc?
Bah, j'ai fait les deux. Je me suis déplacé dernièrement à Vannes pour aller chez les Mariners, pour ceux qui connaissent, pour voir deux, trois mecs. Principalement, bah, je regarde la tape. Alors, malheureusement, les tapes en France, tu as la caméra à 10 km, tu vois que dalle. Donc, voilà. Donc, en fait, tu as une grosse partie de potentiel athlétique, de gabarit. Donc, si tu as un Français ou un Africain qui fait 1m95, 130 kg, qui connaît un petit peu le foot, qui joue à la O-line, le mec, c'est un niveau de D2, D1. Parce qu'il est européen, ce serait un Américain, ils s'en foutent. Mais vu que c'est un Européen, bah, ils sont vachement hypés sur les mecs comme ça. Et sinon, après, tu m'as demandé la différence entre la vidéo et... Bah, tu coaches. Tu coaches en réel. J'avais un receveur, un petit receveur romain aux Mariners de Vannes et tu lui demandes certaines choses, tu lui expliques certaines choses, voir s'il peut les appliquer. Tu lui mets un peu de pression, tu mets certaines choses en place pour voir s'il a un potentiel de réussir là-bas. Parce que le but, c'est pas d'emmener des gamins qui vont pas réussir, parce que c'est payant une prep school. Moi, j'ai des scholarships très très intéressante, mais ça reste un petit billet, donc j'ai pas envie d'envoyer des gamins pour rien, parce que ça sert à rien, sauf si je leur dis clairement, si tu veux te faire un kiff, partir aux États-Unis, tu peux, ça c'est ton droit, mais après moi je te garantis rien, mais sinon ouais, bah, ça te permet de voir certaines choses en vrai, d'avoir bah, juste une discussion, parce que les réseaux, ça reste les réseaux, on te fait voir ce qu'on veut. Et tu vois, petite anecdote pas marrante du tout pour nous, mais qui est assez drôle en soi. On avait le QB 2 européen, un espagnol, et ce cher jeune homme avait dit qu'il était de la classe 2024, donc qu'il aurait 18 ans sur l'année prochaine. Et finalement, bah, en fait, c'est un mec qui avait 3 ans de plus, qui a menti sur sa taille et qui a menti sur son poids. Donc autant dire, quand il allait faire les camps, les try-outs à Auburn et tout, à Troy, et ils m'ont dit, bah, on s'en fout de toi. Donc, le mec est reparti en Espagne. Donc, je ne sais pas ce qu'il lui a pris par la tête. Mais tu vois, bah, j'essaie de faire attention à ce genre de choses. Et en réel, bah, tu peux le voir, du coup.
D'accord. Ouais, trop cool. C'est une super opportunité, en tout cas. Et on est, je pense qu'on est tous vachement fiers de toi. Et du coup, on te souhaite le meilleur sur la suite. Mais, C'est kiffant de voir au-delà du boulot de fou que vous faites pour Trickplay, de voir ça en plus vraiment concret sur le terrain, quoi.
Bah, après, sur moi, tu continueras à faire tes fiches, hein. Val, s'il te plaît, fais tes fiches. S'il te
plaît. Bah, ouais, on compte pas maintenant, il y a un site et tout, attention.
J'avais commencé et depuis, j'ai quasiment rien fait parce que ça prend tellement de temps que c'est chaud. Je vais essayer d'en faire. Bah, de toute façon, je vais regarder quand même le collège le samedi et tout. Mais après, c'est entre regarder, plonger ta tête dans les tapes et faire des fiches, puis il s'en passe du temps. Donc, est-ce que j'aurai le temps de tout faire? Je ne sais pas. Et puis, si l'année prochaine, parce qu'en septembre, je vais aussi là-bas aux États-Unis pour ce deal, enfin pour cette opportunité. Donc, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps, enfin autant de temps de faire ce que j'ai fait les années précédentes. Je pense pas. Je vais essayer. Mais ouais, voilà.
Après, et ton rôle, c'est sur l'offense ou c'est toute l'offense? Ah, mais la défense aussi.
Toute l'équipe, tout ce qui est possible, je prends. Maintenant, bah, moi, comme vous savez, je vois mieux ce qui se passe sur l'attaque, en gros. Donc, j'ai plus de facilité à attirer certains joueurs et tout. Mais il y a des potentiels incroyables qu'on n'imagine même pas, même en Afrique et tout, alors que les mecs... Bah, ils sont dans certains pays, on leur refuse les visas parce que bah, c'est une espèce de mafia. Voilà, on les refuse, on sait, ils savent pas pourquoi. Et c'est des gars qui potentiellement ont le potentiel d'être en NFL, quoi. Donc c'est assez énorme, on se rend pas compte de ce qu'on peut faire en Europe et en Afrique, dans le reste du monde. Maintenant, il va falloir expliquer aux gamins un peu plus comment ça se passe pour aller là-bas, etc. Et que les clubs et certains même gros clubs français,
ils racontent pas n'importe quoi aux jeunes et qu'ils les lâchent, qu'ils les laissent partir là-bas, parce qu'en plus de ça, ça fait une bonne pub pour eux, donc c'est ce qu'ils ont un peu de mal à comprendre. Mais on essaie de faire en sorte que ce soit le mieux possible pour les gamins, parce que forcément, bah, moi aussi, il en va de ma carrière. Donc, si un gamin qui dit le mec, il m'a envoyé je ne sais pas où, c'était de la merde, c'était n'importe quoi, bah, moi, je prends derrière et c'est un petit milieu et tout le monde se connaît. Donc, ça va très vite.
Et est-ce que tu connais des kickers par hasard?
Parce que. Non, mais est-ce que tu connais un club qui
en aurait besoin? On peut te donner un nom. On peut te donner un nom.
Ça, franchement.
Je pense pas qu'il soit éligible à l'université, par contre.
Ah, il est trop vieux.
Il va mentir sur son poids, par contre, lui aussi. Hein,
mais... Ouais.
Il va mentir sur beaucoup de choses.
Oh, c'est pas gentil.
Il a toujours la capacité à aller en soirée, tu peux pas mentir.
Il va utiliser son expression préférée, il est claqué au sol.
Ok, cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup, les gars.
J'ai une dernière question.
Ouais, juste, vas-y,
Val, juste une dernière question avant de clôturer. Ça entre guillemets, rien à voir, c'est plus à ses connaissances. S'il te plaît, devant les millions d'auditeurs ou ceux qui regardent la vidéo, s'il te plaît, Caleb Williams ou Drake May?
Drake May.
Voilà.
Tous les jours, comme j'aime bien l'appeler, Caleb Highlights Williams. Pour l'instant, c'est que des highlights, donc ça va peut-être changer. Je dis pas le contraire. À l'instant T, c'est Drake May et de loin.
Voilà. Donc pour tous ceux qui préparent la,
pour
la
ceux qui jouent à la
prochaine, la fantasy, pour ceux qui savoir quel est QA.
Pour ceux qui
la Caroline cette année. La Caroline. Putain.
Voilà. Va y avoir du QB l'année prochaine normalement.
Ah donc, ouais, ça va être magnifique.
La Caroline, bordel.
Gardez bien vos pics 2024 pour la dynastie.
Trop tard.
Parfait, les gars. Bah, merci encore. Et ça reprend quoi? Ça reprend vers le 15 juillet, je crois, la NFL, les training camps et tout. Donc, encore deux bonnes semaines à s'enflammer sur une news du style d'Eric Prince pourrait peut-être être le Isaiah Pacheco de 2024. Mais ça va reprendre bientôt et du coup nous aussi on va essayer de reprendre un peu la fréquence des podcasts et surtout Alex et Franz, je les sens chaud pour faire du contenu, donc stay tuned comme on dit et on vous dit à très bientôt et encore merci Val pour ta présence et ces analyses.
Merci beaucoup à vous.
Yes.
Toujours sympa de venir, donc quand vous voulez.
Avec plaisir. Et maintenant que tu vas te lancer dans la dynastie, c'est bon, on sait que bientôt tu seras membre à plein temps de Fantasy Ballers. Tu vas vouloir faire de la dévie parce que tu connaîtras déjà les mecs de l'université. Et tu pourras nous faire. Ouais.
Mais après, ça me met trop de pression. Donc
Parfait. Allez, à bientôt, les gars.
Merci. Ciao. Bonne soirée. Ciao.
Merci, Val. À bientôt, tout le monde.